Le Monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro, au sommaire de cette édition du jeudi 18 avril 2024. Le Burkina Faso expulse 3 diplomates français pour activités subversives. Paris estime que la décision des autorités burkinabènes ne repose sur aucun fondement légitime. Au Mali, dissolution d'une coordination de partis et d'organisations critiques à l'égard des autorités de Bamako.
Nous, notre revendication, c'est un retour à l'ordre constitutionnel normal. Chose que les autorités en place ne veulent pas.
Réaction d'Ibrahima Nabi Togola de la coordination des organisations de l'appel du 20 février dans la partie magazine. En RDC, Moussa Mondo, ancien vice-ministre des hydrocarbures, a été condamné à 20 ans de prison pour le meurtre de son épouse. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a souligné aujourd'hui l'urgence de l'approbation de l'aide à l'Ukraine par le Congrès américain. Le vote est prévu samedi. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Eco. Pour l'instant, le journal. Le Kenya est en deuil. Le chef des armées, le général Francis Omondi Ogola, et 9 responsables militaires ont été tués dans un crash d'hélicoptère, selon le président. Le crash a eu lieu dans le comté d'Elgeyo Marakwet, à environ 400 kilomètres au nord-ouest de la capitale Nairobi. Nous y reviendrons. Au Burkina Faso, 3 diplomates français ont été déclarés persona non grata pour activités subversives, indique le ministère des Affaires étrangères dans une note adressée à l'ambassade de France à Ouagadougou. Nathalie Barge.
La note datée de mardi précise que les 3 diplomates français, dont 2 conseillers politiques, doivent quitter le pays dans les 48 heures. Le 1er décembre 2023, 4 fonctionnaires français, des agents du renseignement selon les autorités burkinabées, des techniciens de maintenance informatique selon la France, avaient été arrêtés à Ouagadougou, mis en examen 2 semaines plus tard et incarcérés. Ils sont actuellement en résidence surveillée selon des sources sécuritaires du Burkina Faso. La décision des autorités burkinabées ne repose sur aucun fondement légitime, a déclaré ce jeudi Christophe Lemoine, porte-parole adjoint du ministère français des Affaires étrangères. En décembre 2022, le gouvernement burkinabé avait déjà expulsé 2 Français qui travaillaient pour une société burkinabée soupçonnée par les autorités d'être des espions. Plusieurs médias français ont également été suspendus. Les relations entre Ouagadougou et Paris se sont dégradées depuis l'arrivée au pouvoir en septembre 2022 du capitaine Ibrahim Traoré. Quelques mois après le coup d'État, le Burkina Faso a dénoncé un accord militaire de 1961 avec la France, après avoir obtenu le retrait des forces françaises et s'est engagé dans une coopération militaire avec la Russie.
Les autorités maliennes annoncent la dissolution d'un mouvement critique à leur égard, auquel elles reprochent des agissements de nature à troubler l'ordre public et attentatoire à l'unité nationale. C'est ce qu'indique un communiqué du Conseil des ministres publié hier. Nani Talani.
La dissolution concerne la coordination des organisations de l'appel du 20 février pour sauver le Mali, formée de partis et d'organisations de la société civile, comme la coordination des mouvements, associations et sympathisants de l'influent imam Mahmoud Diko, CEMAS, dissoute elle aussi début mars. Le gouvernement accuse la dite coordination de s'illustrer en permanence par des agissements ostentatoires de nature à troubler l'ordre public, à porter atteinte à la souveraineté de l'État et à l'unité nationale. Par conséquent, elle est dissoute, affirme le communiqué du Conseil des ministres. Le document rappelle que les textes en vigueur au Mali imposent des limites à ne pas franchir, notamment l'interdiction faite aux partis politiques de former des regroupements sous la forme d'associations et aux associations d'adopter des agissements contraires aux principes de souveraineté nationale, de la démocratie, de l'intégrité du territoire national, de l'unité nationale et de la laïcité de l'État. Ces derniers jours, la junte au Mali a suspendu les activités des partis et associations à caractère politique et a interdit aux médias de les couvrir.
Le nouveau chef de l'État sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, est en visite ce jeudi en Mauritanie voisine, son premier déplacement à l'étranger depuis son élection fin mars. Diomaye Faye est arrivé en fin de matinée dans la capitale mauritanienne, Nouakchott, pour une visite d'amitié et de travail de quelques heures. Il s'est entretenu avec son homologue Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, avant une réunion des délégations des deux pays selon un programme communiqué par la présidence mauritanienne. Au moins 10 personnes ont été tuées et 23 blessées par l'explosion d'une mine terrestre dans le nord-est du Nigeria, région en proie à la violence djihadiste depuis plusieurs années. Les victimes étaient des agriculteurs et des pêcheurs ayant quitté la ville garnison de Monguno mercredi pour se rendre sur les rives du lac Tchad. Leur véhicule a heurté une mine terrestre soupçonnée d'avoir été posée par des djihadistes de l'État islamique en Afrique de l'Ouest. En République démocratique du Congo, un ancien vice-ministre, membre du parti de l'ancien président, Joseph Kabila, a été condamné à 20 ans de servitude pénale pour avoir battu à mort sa femme. Le point avec Eddy Sango.
Le tribunal de grande instance de Kinshasa a prononcé sa sentence hier. Moussa Mondo, ancien vice-ministre des hydrocarbures, a écopé de 20 ans de servitude pénale et d'un million de francs congolais de dommages, soit près de $400 américains au terme d'un procès en flagrance. Les juges ont retenu en son encontre l'infraction des coups et blessures et homicide volontaire. Moussa Mondo a été arrêté mardi et jugé le jour suivant après le décès de sa conjointe Alissa Khadija, de nationalité malgache, qu'il avait lui-même amené à l'hôpital dans un état quasi comateux, le corps couvert de contusions. Il a nié au procès avoir porté la main sur sa femme, mais les juges ont basé leur décision sur les paroles des témoins et des audios des conversations de la victime avec ses parents. Le PPRD, le parti de l'ancien président Joseph Kabila, ainsi que la communauté islamique chiite à laquelle il appartient, l'ont suspendu pour les mêmes motifs.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le secrétaire d'État américain a insisté sur l'urgence pour la Chambre des représentants d'approuver une enveloppe budgétaire pour l'Ukraine. Anthony Blinken s'exprimait en marge du G7 qui se tient sur l'île de Capri en Italie. Les précisions avec Deli Dico.
En ce moment, il est urgent que tous les amis et partisans de l'Ukraine fassent le maximum d'efforts pour continuer à fournir à l'Ukraine ce dont elle a besoin pour se défendre face à l'agression russe, a affirmé Blinken devant la presse peu avant un entretien avec son homologue ukrainien Dmytro Kuleba. Les deux hommes participent à une réunion des chefs de la diplomatie du G7 en Italie. Le chef de la diplomatie britannique David Cameron a appelé jeudi à rechercher des manières créatives d'utiliser les avoirs russes gelés à l'étranger pour financer la défense de l'Ukraine. L'Ukraine réclame inlassablement à ses alliés occidentaux plus de munitions et de systèmes de défense anti-aérienne. Mais la Chambre des représentants du Congrès américain doit voter ce week-end sur un texte prévoyant près de $61 milliards d'aide militaire et économique à l'Ukraine.
Le Kremlin a pour sa part assuré ce jeudi que l'aide des États-Unis à l'Ukraine ne changera rien à la situation sur le front où l'armée russe est à l'offensive. Cela ne peut en aucun cas influer sur l'évolution de la situation sur les fronts, a commenté le porte-parole de la présidence russe Dmitry Peskov. L'OTAN travaille à l'envoi de systèmes anti-aériens supplémentaires à l'Ukraine, a déclaré ce jeudi le secrétaire général de l'Alliance Atlantique, Jens Stoltenberg, en réponse aux appels à l'aide de Kiev face aux raids des forces russes. Un conseil OTAN-Ukraine se tiendra demain, vendredi. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky devrait y participer par visioconférence. Les États-Unis ont annoncé ce jeudi des sanctions ciblant la production de drones par l'Iran, conséquence de l'attaque menée par Téhéran le week-end dernier contre Israël. Ces mesures visent 16 individus et 2 entités dans la chaîne de production iranienne d'aéronefs sans pilote, notamment de moteurs propulsant les drones Shahed utilisés lors du raid du 13 avril, a détaillé le département du Trésor. Ici même aux États-Unis, le procès historique de Donald Trump a repris aujourd'hui à New York avec la difficile sélection du jury, interrompue dès le début de l'audience par 2 jurés qui ont finalement jeté l'éponge face à l'enjeu du procès. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Nani Talani.
Le Nigeria a conclu un accord de 3,8 milliards de dollars avec Shell pour fournir du gaz à son projet d'usine de méthanol de Brass qui sera exécuté le mois prochain, a déclaré ce jeudi le ministère du gaz. Le projet comprend une usine de traitement de gaz, un site de production et de raffinage de méthanol ainsi que des installations d'exportation de produits. Le Nigeria, qui détient les plus grandes réserves de gaz naturel d'Afrique, soit plus de 200 000 milliards de mètres cubes, a eu du mal à exploiter cette matière première en raison de contraintes de capitaux et d'un manque d'infrastructures. L'Afrique du Sud utilisera les futurs prélèvements sur son compte de réserves en or et en devises pour réduire le fardeau de sa dette, a déclaré le ministère des Finances, afin de soulager le pays le plus industrialisé d'Afrique qui est aux prises avec une économie en difficulté et un endettement élevé. Pretoria avait déjà annoncé une modification du cadre régissant ses réserves de change pour pouvoir retirer 8 milliards de dollars au cours des trois prochaines années. Pour terminer, la Somalie et la BAD ont examiné le document de stratégie 2022-2024 axé sur le développement d'infrastructures de qualité et durable, une économie résiliente et inclusive. Le portefeuille de la banque en Somalie comprend 17 opérations pour plus de 221 millions de dollars. Elle couvre les transports, les secteurs social, agricole et multisectoriel, y compris la gouvernance économique et financière, l'électricité, l'eau et l'assainissement.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Balle au panier pour commencer, les matchs de la Basketball Africa League saison 4 se poursuivent demain avec les rencontres de la Conférence du Nil.
Oui, les matchs ont lieu au complexe sportif Hassan Mustafa du Caire du 19 au 27 avril. Quatre clubs, Al Ahly d'Égypte haute, City Oilers de l'Ouganda, Al Ahly de la Libye et Bangui Sporting Club de la République centrafricaine se lancent à l'assaut des deux premières places qualificatives directes pour les playoffs prévus à Kigali au Rwanda. Le match d'ouverture va opposer deux clubs novices, Al Ahly de la Libye et Bangui Sporting Club de la République centrafricaine, qui sont à leur première participation, coup d'envoi 14h temps universel. Et juste après, à 17h, l'équipe hôte Al Ahly va affronter les Ougandais de City Oilers. Des rencontres que vous pouvez suivre à la radio sur les antennes de la VOA, partenaire de cette Basketball Africa League depuis sa toute première édition.
Ici en NBA, Philadelphie bat Miami et défiera les Knicks en play-off.
Porté par Joel Embiid, 23 points et Nicolas Batum, les Philadelphia Sixers ont battu le Miami Heat sur le fil 105-104 en barrage. Philadelphie a désormais rendez-vous avec les Knicks, deuxième de la saison régulière à l'Est. À partir de samedi pour le premier tour des play-offs, pas encore éliminé, le Heat a encore une chance de rallier les play-offs. Miami va affronter demain vendredi les Chicago Bulls qui ont sorti les Atlanta Hawks 131-116 pour la première place qualificative en conférence Est.
Europa League ce soir en Europe avec les matchs des quarts de finale retour.
Le Bayer Leverkusen des Africains champions d'Allemagne se déplace en Angleterre après son succès à l'aller 2-0 pour faire face à West Ham. Le technicien espagnol Xabi Alonso pourra compter sur ses Africains, l'Ivoirien et champion d'Afrique Odilon Kossounou, le Burkinabé Edmond Tapsoba, les Nigériens Victor Boniface et Nathan Tella et le Marocain Amine Adli. Mission compliquée par contre pour l'Égyptien Mohamed Salah et Liverpool battu 3-0 par l'Atalanta Bergame à l'aller et qui se rendent en Italie. Difficile mais pas impossible aussi pour le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang et Marseille qui reçoivent le Benfica après leur défaite 2-1 à Lisbonne.
L'UEFA sanctionne le FC Barcelone pour comportement raciste.
L'instance européenne du ballon rond a condamné le club catalan au paiement de 25 000 euros d'amende pour le comportement raciste de ses supporters. Deux fans barcelonais ont été interpellés à Paris le 10 avril pour des saluts nazis pendant le quart de finale aller de Ligue des Champions contre le PSG. Les autorités françaises les ont accusés d'apologie de crimes de guerre et injures publiques à caractère raciste au Parc des Princes où le PSG rencontrait le FC Barcelone. La formation catalane a aussi été interdite de vendre des billets pour le déplacement de ses supporters lors de son prochain match dans le cadre d'une compétition de l'UEFA, une sanction assortie d'un sursis d'un an.
Page de sport VOA Afrique signée Yacouba Ouedraogo. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique. Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Mali, les autorités ont annoncé la dissolution de la coordination des organisations de l'appel du 20 février pour sauver le Mali, lui reprochant des agissements de nature à troubler l'ordre public et attentatoire à l'unité nationale. Ce mouvement est formé de partis et d'organisations de la société civile, comme la coordination des mouvements, associations et sympathisants de l'influent imam Mahamoud Diko, dissoute elle-même aussi début mars. Bamako a récemment suspendu les activités des partis et associations à caractère politique et l'interdiction aux médias de couvrir leurs activités. Bagassi Koura a joint à Bamako Ibrahima Nabi Togola, l'un des porte-parole de la coordination des organisations de l'appel du 20 février pour sauver le Mali.
Notre réaction, c'est que d'abord, c'est une décision qui ne nous a pas du tout surpris. Parce que, comme vous le savez, la transition est arrivée à terme depuis le 26 mars dernier, selon la charte de la transition. Nous, en tant qu'organisation citoyenne, nous n'avons pas participé à l'élaboration ou même à donner des dates en ce qui concerne la gestion de la transition, la période de la gestion de la transition. C'est les autorités, les anciennes autorités de la transition qui ont pris cet engagement devant la nation malienne, devant la communauté internationale, et à ce jour-là, ils n'ont pu absolument rien faire.
Alors donc, qu'est-ce que vous allez faire maintenant ?
Le délai de la transition, c'est inscrit dans la charte de la transition. Le retour à l'ordre constitutionnel. Mais c'est la constitution de la nation malienne qui dit que nul ne peut exercer le pouvoir en République du Mali sans passer par les urnes. Et ça également, c'est une donnée universelle aujourd'hui dans le monde entier. Personne ne peut prétendre gouverner une nation aujourd'hui sans passer par les élections. Donc, nous, notre revendication, c'est un retour à l'ordre constitutionnel normal. Chose que les autorités en place ne veulent pas. Donc, ils trouvent toujours des moyens pour incriminer les gens, pour arrêter les gens, pour emprisonner les gens et empêcher les gens quand même de dire leurs pensées. Et la liberté d'association, l'existence des partis politiques, mais c'est garanti par la constitution de la République du Mali. Et aujourd'hui, nous ne faisons que dénoncer ces dérives autoritaires-là au Mali. Donc aujourd'hui, toute personne qui dit autre chose, qui n'est pas ce que veut, ce qui nous gouverne aujourd'hui, il est indexé d'apatride, il est indexé comme quelqu'un qui trouble l'ordre public. Donc, honnêtement, aujourd'hui, nous-mêmes, on est perdus. Oui. Parce que nous réfléchissons.
Et quelles sont les activités que mène cette organisation, la coordination des organisations de l'appel du 20 février ?
L'appel du 20 février est une organisation citoyenne. C'est composé de magistrats, d'hommes politiques et de la société civile, et même des particuliers. Notre objectif n'est autre chose que le retour à l'ordre constitutionnel normal. Et en ce qui concerne le délai de la transition, mais c'est la charte de la transition qui a fixé le délai de la transition, et la transition devait prendre fin le 26 mars dernier. Donc nous ne faisons que leur rappeler à leur engagement. Parce qu'ils ont pris un engagement devant le peuple malien, ils ont pris un engagement devant la communauté internationale. Donc quand ces engagements-là arrivent à terme et que nous dénonçons ces états de fait, mais nous ne sommes pas en faute.
Ibrahima Nabi Togola, l'un des porte-parole de la coordination des organisations de l'appel du 20 février pour sauver le Mali.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Bamako, au Mali, sur 102 FM.
Du matériel et des instructeurs militaires russes sont arrivés au Niger la semaine dernière, concrétisant ainsi le rapprochement entre Moscou et Niamey depuis l'arrivée au pouvoir de la junte dirigée par le général Abdourahmane Tiani. Une junte qui s'est montrée hostile aux partenaires traditionnels du pays, comme les États-Unis, dont l'accord militaire qui le liait au Niger a été récemment dénoncé. D'ailleurs, une manifestation pour le départ des troupes américaines a eu lieu au cours du week-end à Niamey. Reportage de notre correspondant à Niamey, Abdul Razak Idrissa.
La chaîne nationale nigérienne Télé Sahel n'a pas donné de précision sur la nature du matériel. Le nombre d'instructeurs n'a pas non plus été dévoilé. Un d'entre eux a expliqué ce qu'ils sont venus faire.
Nous sommes ici pour former l'armée du Niger et pour aider en utilisant le matériel militaire arrivé. C'est le matériel de différentes spécialités militaires pour formation des spécialités militaires.
Pour une partie de l'opinion, l'arrivée de ce matériel et de ces instructeurs russes est plutôt bien perçue.
Au lieu de prendre des matériaux et venir ici, ou bien eux, ils vont venir dire qu'ils vont faire la guerre avec nous, non. Ils vont venir, ils vont former nos militaires à l'utilisation et au manœuvrage de tout ce qu'ils ont enlevé. Donc moi, ça, j'acclame, je dis, c'est une bonne chose.
Avec la France qui nous a colonisés, durant plus de 100 ans, nous n'avons jamais disposé de cet élément de défense de notre pays. Et en 7 mois avec la Russie, nous disposons déjà de quelque chose qu'aucune colonie française n'en a disposé auprès de la France qui l'a colonisé.
Pour l'analyste et ancien ministre Idi Ango Omar, il n'y a pas lieu de dramatiser cette option de diversification de partenariat que les nouvelles autorités du Niger ont pris.
Je ne pense pas que le Niger ait choisi le camp de la Russie contre les autres blocs. On est allé du côté de la Russie parce qu'elle offre cette opportunité de permettre de nous doter du point de vue militaire, de doter notre espace pour assurer sa sécurité. Cette dynamique était déjà engagée avant ce soi-disant entre guillemets bras de fer avec les États-Unis. Déjà avec la France, avec le départ des forces françaises, il y avait une exigence ou un souhait de vouloir diversifier le partenariat, surtout au niveau militaire. Donc c'était une dynamique qui était engagée avant déjà le problème au niveau qui se pose avec les États-Unis.
Avec l'arrivée de ces instructeurs et du matériel militaire russe, quelques mois seulement après le départ des soldats français et la récente dénonciation de l'accord militaire avec les États-Unis d'Amérique, beaucoup voient dans l'attitude de la junte nigérienne une volonté de remplacer une puissance par une autre. L'ancien ministre Idi Ango Omar n'est pas de cet avis.
Aujourd'hui, est-ce que c'est pas aux États-Unis et à l'OTAN de revoir sa politique d'approche avec ses anciens partenaires? Dans la mesure où ce que les États-Unis nous refusent, ce que l'OTAN nous refuse, ce que la France nous refuse, nous l'obtenons avec les Russes. Aujourd'hui, la prise de conscience de nos jeunes compatriotes, de l'ensemble des Nigériens, des Maliens, des Burkinabés, est telle qu'aujourd'hui, ils sont extrêmement sensibles à tous ces questions de la souveraineté.
Simple hasard de calendrier ou action planifiée, difficile à dire, mais samedi, soit 3 jours après l'arrivée du matériel et des instructeurs militaires russes, une manifestation s'est tenue à Niamey, la capitale nigérienne, avec pour objectif d'exiger le départ des soldats américains du territoire national. La manifestation a drainé une foule immense. Abdul Razak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Le ministre des Finances congolais Nicolas Kazadi a discuté de la 6e revue du programme avec le FMI à Washington DC, fournissant un aperçu de la situation gouvernementale actuelle en RDC. Il a mis en lumière les implications de cette revue pour la stabilité économique et la croissance du pays lors d'une entrevue avec Roger Moutou et Sims Tloumani.
Une équipe du FMI est venue à Kinshasa il y a environ un mois ou deux pour s'assurer qu'elle avait tous les éléments pour pouvoir faire une revue. Cette mission a été satisfaisante, c'était une mission exploratoire. Et suite à cela, ils ont reçu le mandat de venir faire la revue. Et nous profitons des assemblées de printemps pour discuter avec toutes les parties prenantes sur quelques petits éléments de réglage avant de finaliser la revue proprement dite qui se déroulera du 24 avril au 8 mai.
Ah, d'accord.
Voilà. Pour ce qui est de la situation du pays, comme vous l'avez vous-même sous-entendu, nous avons parcouru un long chemin qui n'a pas été facile ces 3 dernières années, qui consistait à maintenir un certain rythme, une certaine rigueur, certains équilibres fondamentaux pour préparer l'avenir, c'est-à-dire mettre le pays en situation de pouvoir espérer voir son émergence. Et pour ça, il fallait remettre de l'ordre dans les finances publiques, dans la manière de gérer les finances publiques, remettre de l'ordre dans la macroéconomie du pays Et c'est un travail lourd, c'est un travail prenant que le commun des mortels ne peut comprendre de manière simple et évidente. Et ce travail a été fait, c'est comme ça qu'on a pu parcourir les 5 revues. Et en même temps, dans la même période, on a beaucoup réformé. On a pris des lois, des décrets, des arrêtés sur différentes questions liées aux finances publiques, liées à la gestion monétaire, liées aux réformes économiques. Tout ça, ça fait de nous un des pays qui a le plus réformé pendant ces dernières années. C'est comme ça qu'on a eu sur ce site jusqu'à la 5e revue. Maintenant, c'est la dernière. On espère que ça se passera bien. Et si on y arrive, ce sera la première fois dans l'histoire du pays que le pays achève un programme avec le FMI.
Les finances publiques, pour continuer avec cette idée, les finances publiques de la RDC ont enregistré, monsieur le ministre, une augmentation de plus de 28,8%. Quels sont les facteurs qui ont contribué, d'après vous, à cette croissance remarquable?
Si vous prenez les 3 dernières années, l'augmentation est de l'ordre de 200%. C'est-à-dire qu'on a plus que triplé, on a triplé le volume du budget ou des ressources, que ce soit les ressources propres ou les ressources extérieures. Et ça, c'est dû au fait que, d'abord, pour ce qui est des ressources propres, il y a eu la bonne tenue des cours, globalement, même si récemment, le cours du cobalt s'est plus ou moins effondré. Mais globalement, on a eu une bonne conjoncture extérieure ces 3 dernières années.
Nicolas Kazadi, ministre des Finances de la République démocratique du Congo. Le candidat républicain pressenti à la présidence des États-Unis, Donald Trump, se trouve cette semaine dans un tribunal de New York pour la sélection du jury dans une affaire où il aurait falsifié des documents commerciaux. Pendant ce temps, son adversaire démocrate, le président Joe Biden, est en campagne et parle des visions concurrentes des candidats en matière d'équité économique. Scott Stern raconte avec la voix de Gabi Dorsil.
Les candidats Joe Biden et Donald Trump ont eu des emplois du temps très différents cette semaine. Donald Trump se trouve dans un tribunal de New York où il doit répondre de 34 chefs d'accusation pour falsification de documents commerciaux.
Je ne sais pas comment on peut avoir un procès qui se déroule en plein milieu d'une élection. Ce n'est pas juste, ce n'est pas juste.
Biden est en campagne près de la maison de son enfance dans l'État voisin de Pennsylvanie. Le procès de Donald Trump porte sur sa tentative d'étouffer des articles de presse peu flatteurs pendant sa campagne de 2016. Les procureurs affirment que Trump a falsifié des paiements à un ancien avocat pour cacher que l'argent était destiné à 2 femmes qui disaient avoir eu avec lui des relations sexuelles extra-conjugales. Trump a plaidé non coupable de ces accusations et ses avocats soutiennent que les paiements étaient des dépenses légales et légitimes. Trump affirme que le fait de le lier au tribunal constitue une ingérence électorale de la part d'un système judiciaire instrumentalisé.
C'est un assaut contre notre pays et c'est un pays qui échoue. C'est un pays qui est dirigé par un homme incompétent qui est très impliqué dans cette affaire. Il s'agit en fait d'une attaque contre un adversaire politique. C'est tout ce que c'est.
Alors que son adversaire est au tribunal, Joe Biden a la piste de la campagne présidentielle pour lui tout seul.
Donald Trump voit le monde différemment de vous et moi. Il se réveille le matin à Mar-a-Lago en pensant à lui-même. Comment il peut aider ses amis milliardaires à prendre le pouvoir et le contrôle et à imposer leur programme extrême au reste d'entre nous? Écoutez ce qu'il dit. Il dit, je cite, « Je serai un dictateur dès le premier jour. Je suis votre rétribution ».
Biden a déclaré que Trump et lui ont des visions concurrentes de l'économie américaine qui soulèvent des questions d'équité fondamentales.
Mes amis, nos origines sont importantes. Quand je regarde l'économie, je ne la vois pas à travers les yeux de Mar-a-Lago. Je la vois à travers les yeux de Scranton. Et ce n'est pas une hyperbole, c'est un fait. Là où l'honnêteté et la décence comptent, là où la foi compte, là où la famille est tout.
Trump dit qu'il n'est pas juste d'être bloqué au tribunal alors que Biden est en campagne. Donald Trump a fait campagne dans l'État de New York en marge du procès, mais ses déplacements dans les États les plus compétitifs semblent pour l'instant se limiter au week-end. Il a rallié ses partisans en Pennsylvanie samedi dernier et doit se rendre en Caroline du Nord ce samedi.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde Michel Joseph, un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.